écrit-il de tes goûts?
Vous voulez gagner 100$ de musique chez Sillon le disquaire? D'ici le 11 septembre, achetez ou renouvelez votre carte de membre de CKRL pour 25$. Et courez la chance de gagner un certificat de 100$ de Sillon le disquaire. Comment faire? Téléphonez au 88 640 25 75 ou bien en ligne sur sillon.com. Vous avez jusqu'au 11 septembre, 17h. N'attendez pas la fin du monde pour renouveler dès maintenant votre carte 2011-2012.
En 1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention d'un permis du CRTC dans le but de créer une station de radio.
Pénètre tous les points de l'espace.
1972, le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL, est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices, toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez à portage. Merci.
C'est KRL 89.1.
Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez dès midi et jusqu'à 13h l'émission 7e ciel, regard sur le cinéma qui, comme son titre l'indique, passe l'heure qui suit à parler essentiellement de cinéma sous toutes ses formes, les films qui se déclinent sur les écrans de toutes sortes et filmés par des caméras de toutes sortes. Mais cette semaine, la caméra qui nous intéresse, c'est celle d'un enfant qui a vécu longtemps, qui a tourné plus d'une centaine de films, un enfant d'origine chilienne dont une grande part de l'œuvre s'est épanouie en France et qui vient tout juste de décéder à peine à 70 ans. Il s'agit de Raoul Ruiz, un cinéaste tout à fait à part dans l'histoire du cinéma contemporain. C'est une œuvre qui parcourt plusieurs décennies depuis la fin des années 60. Son premier film important, c'est « Trois tristes tigres », un film qu'il avait présenté au Festival de Locarno en 1969 et qui avait inauguré une œuvre assez poétique, entre autres, marquée sans doute par le surréalisme, marquée par une manière de faire du cinéma pas si éloignée de Buñuel, mais aussi sous l'influence du récit picaresque latino-américain et une culture littéraire latine qui va bien au-delà des simples influences latino-naturelles, si on veut, que ce soit par exemple Borges ou encore Garcia Marquez. Donc Raoul Ruiz, un cinéaste que je qualifie d'enfant dans la mesure où il a gardé cette espèce de passion, cette espèce de flamme et de ferveur quant à l'objet filmé, quant à l'idée de filmer, une passion du film et l'idée même de faire un film pour en faire un, parce qu'on a envie d'en faire un, pas nécessairement parce qu'on a absolument quelque chose à dire, une cause à défendre. C'est beaucoup plus que ça. La cause à défendre, ce qu'il y a à dire, participe d'un projet de cinéma qui est un monde en soi. Et c'est pourquoi on a souvent parlé, finalement, du cinéma de Ruiz comme étant un univers complètement à part, une hypothèse de cinéma en elle-même. Et comme quelques cinéastes dans l'histoire du cinéma, on a pu dire aussi qu'il y avait un cinéma ruisien, comme on dit, qu'il y a une sensibilité particulière qui peut se retrouver aussi bien au cinéma qu'ailleurs, d'ailleurs, et qui définit tout à fait une vision du monde auquel répondent les films que Ruiz a fait. Donc, Raul Ruiz est décédé hier, et j'ai envie de passer l'émission à parler un peu de ce qu'il a fait, évidemment. Pas d'une manière larmoyante, je me sens pas en deuil, c'est un cinéma extrêmement vivant. C'est surtout un cinéma qui est à venir. Raul Ruiz est un cinéaste qui a, entre autres, réalisé un court-métrage qui est presque programmatique, qui définit d'une certaine manière sa vision du cinéma et qui peut-être peut nous aider à entrer dans son univers dans le court laps de temps qu'on a aujourd'hui pour en parler. Son film s'appelle Le film à venir, ce court film si emblématique. Le film à venir, ben c'est peut-être un peu un titre qui annonce tout ce que Ruiz a essayé de faire, c'est-à-dire quelque chose d'expérimental, d'hypothétique, en fait. Il y a rarement des réponses livrées aux spectateurs tout de suite dans leur bec, pour leur bec, pour leurs yeux plutôt. Au contraire, souvent on sortait des films de Raul Ruiz, on sortait d'une projection d'un film de Raul Ruiz ou d'un visionnement, puisqu'évidemment dans ces dernières années, compte tenu des conditions de distribution et diffusion du cinéma d'auteur, il est davantage possible qu'on ait vu ces films chez soi qu'en salle, du moins au Canada. Donc, il est possible de sortir, comme c'est assez rare encore aujourd'hui, d'une salle de cinéma, et entre autres après avoir vu un film de Ruiz, en se demandant qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ce film? Et il y a très peu de cinéastes dans les dernières années qui ont, à mon sens, soulevé encore une fois le fait que le cinéma est une nouvelle forme d'art dont il est possible encore de proposer des avenues, où il est possible encore de proposer des avenues qui, jusqu'à maintenant, n'avaient été qu'entrevues, que suggérées sous d'autres formes par des artistes qui œuvraient ailleurs que dans le cinéma. Donc Raul Ruiz, c'est ce cinéaste avec lequel j'ai envie d'échanger avec vous, chers auditeurs, tout au long de l'heure qui suit.
Évidemment, t'as pas d'argent sur toi. Bon, adieu.
René.
Ouais.
À quelle heure tu comptes rentrer ce soir?
Tard.
On parlera ce soir.
C'est vrai, tu pourras me dépanner?
Non, je ne pourrai jamais te dépanner.
Mais je te demande pas beaucoup, 2000.
Mais oui, mais 2000 plus 3000.
Bah, c'est pas de ma faute, ça va vite.
Oui, c'est quoi encore cette fois? C'est ta copine?
Non, c'est pas elle.
Bon, alors c'est quoi? C'est une autre?
Non, c'est un autre, un copain. Je te raconterai. Bah, l'espagnol, tu te rappelles, hein?
On en parlera ce soir. Minutes plus tard, pendant que j'attendais Georges dans un café de l'île Saint-Louis, je l'ai vu passer, poursuivi par des gens qui criaient au voleur.
Jeanne, je suis confus, j'ai peur d'être très 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 en retard.
Ça n'a pas d'importance.
Mais vous êtes blême?
Je viens de voir passer René.
René, mais enfin, il était avec moi il y a une demi-heure.
Où?
Chez moi, je crois. Enfin, là, je suis formel.
Mais il était... Enfin, je veux dire, il allait bien?
Bah, on peut pas dire ça, non, mais il va mal, mais enfin... Vous en savez plus que moi là-dessus. Je me trompe. Je plaisante.
Madame, j'ai peur que vous ayez négligé de nous régler.
Oui, je sais, mais je n'avais pas l'intention de partir sans payer.
Oui, j'en suis sûr, mais en ce moment, il y a tellement de voleurs.
Si vous êtes grossier.
Il vaut mieux être grossier que...
De quoi? Quoi? De quoi? Dites-le. Mais non, je ne vais pas faire un esclandre. Je m'en souviendrai, je vous reverrai.
Souhaitez-vous qu'on prenne date?
Où vous voulez, quand vous voulez. À vous l'honneur.
Lundi.
Georges.
Quelle heure? 8h. Je ne peux pas. On ferme à 8h30.
Mais vous êtes fou, quoi?
Ah oui, un truc comme ça, ça me rend fou. Mais ça fait du bien. À 8h35, entendu?
8h45, on doit faire la caisse.
Ce n'est pas simple. Hein? Faites-le difficile. Tergiversez.
Ces purs ongles très hauts des diables en une seule angoisse, ce midi soutient l'empathie fort, main rêve, l'espérance brûlée, des fins de ce que le miroir, encore que dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation, sitôt le septuor.
Non, mais c'est insensé. Il m'a récité le sonnet à Onyx. Il connaît Mallarmé par cœur.
Mallarmé, c'est mon truc.
René était là.
Quoi?
Bon, alors, et pour le monsieur, ce sera?
Un café. Il voulait quoi, au juste?
Devine.
Combien?
2000.
Ah, pas question.
Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire?
Bah, résister. Je vais trouver un travail convenable, assez convenable.
Mais et l'école?
De toute façon, il sera viré bientôt, il n'aime pas ça, il sera content. Il gagnera sa vie convenablement, il va se payer un appartement, je vais trouver un studio. Pas cher.
Où?
Très loin de chez vous.
Mais j'ai besoin de l'avoir près de chez moi. Tu dois savoir comment ça se passe. Comment ça va se passer?
Calmez-vous, Jeanne. Ça va se passer de la façon la plus raisonnable ou pas du tout.
Comment ça, pas du tout?
Vous savez très bien qu'on ne peut pas le forcer, hein? S'il n'a pas envie.
Je sais, mais j'ai le droit de...
Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, on est entre collègues.
Si vous le dites.
Je suis Christian Corail.
Et alors? Votre conversation, vous la trouvez réjouissante?
Je pensais que mon nom vous dirait quelque chose.
Corail, je connais le train, mais enfin, on a dû vous dire ça souvent.
Depuis toujours.
Et comme ça, vous avez conclu que votre destin C'était la psychanalyse?
Jean-Gilles Fournier, on va être en retard, la séance commence dans 5 minutes.
La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour un thérapeute, je vous trouve quelque peu instable. Moi, je vous trouve carrément encombrant.
Garçon, l'addition, s'il vous plaît.
Je voulais seulement vous signaler que dans le cas qui vous occupe...
Mais que quoi, quoi, qu'est-ce que vous en savez?
Il y en a des milliers comme ça.
C'est pas vrai.
Heureusement, d'ailleurs.
Laissez-moi vous dire que vous êtes totalement à côté de la plaque.
D'où il sort?
Vous le savez parfaitement. Société psychanalytique de l'Île-de-France.
Ah, la SPIF. Ah oui, ah bah oui, c'est bien ça.
Et je n'ai qu'une chose à ajouter, c'est que vous faites beaucoup de tort à vos patients.
Et vous, la SPFB, vous fabriquez des tueurs.
Alors c'est ça la SPIF, on espionne ouvertement, vous pratiquez l'écoute sur table.
Que voulez-vous? Vous avez des voix plutôt perçantes.
Et si je vous cassais la gueule?
J'attends ce moment avec impatience.
83 francs.
Quoi?
Vous m'avez demandé l'addition.
83 francs pour deux cafés?
Laissez, je m'en occupe.
Oui, c'est ça. Payez d'abord vos dettes.
Je vous ai pas attendu.
Bon, je vais régler.
Alors, il paraît que Mallarmé était un assassin refoulé.
Qui vous a dit ça?
Votre ami. C'est comme moi, j'ai toujours envie de tuer.
Gardez tout.
Merci, madame. Excellente soirée.
On vient d'entendre un extrait d'un des films peut-être les plus réussis de Raoul Ruiz, ou en tout cas l'un de ceux dont il était le plus fier, dont il a même beaucoup parlé. C'est un film que Ruiz réalise au milieu des années 90, à une période où on peut dire qu'il est dans une phase de création particulièrement intense. Je pense pas que le contraire ait été souvent le cas par ailleurs dans son travail, mais on peut dire que c'est un moment comme ça au milieu des années 90 où les films de Ruiz accède à une reconnaissance publique beaucoup plus large, qui ne veut pas nécessairement dire que son cinéma est plus réussi en cela. Mais c'est certain qu'il, compte tenu de l'ambition de son cinéma, assez marqué par une manière même de penser les rapports entre philo, littérature, création artistique depuis les années 60, disons l'approche assez intellectuelle qu'a préconisé Ruiz, parvenir à faire la synthèse de ses réflexions esthétiques dans son cinéma pour accéder à une plus large reconnaissance sans pour autant, si on veut, j'hésite à dire trahir, mais sans pour autant renoncer à une certaine manière, une certaine visée, une haute visée en ce qui a trait à la création cinématographique. Tout à coup, il y a ce moment charnière où Ruiz réussit à joindre les deux. C'est à la fois une plus grande accessibilité qui passe peut-être par un humour plus flagrant, parfois aux ornières de la parodie, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et on peut dire que, en ce qui concerne l'extrait que je viens de faire entendre, Généalogie d'un crime, de 1996, je crois, avec Catherine Deneuve, qui était d'ailleurs dans la séquence qu'on vient d'entendre. Évidemment, on a tous reconnu sa voix si on y est moindrement familier. Michel Piccoli et également Melville Poupeau, qui est un des acteurs fétiches de Ruiz. Donc, on voit bien dans cet extrait que peut-être justement qu'il y a une forme de charme ou de séduction ou d'attrait que Ruiz parvient à formuler à l'endroit des spectateurs qui passent par une maîtrise très affûtée des codes qu'il a inventés au cours des années précédentes. Et là, tout à coup, ça émerge de telle sorte que un public plus large pouvait goûter à son cinéma, ne serait-ce que en y voyant la dimension loufoque, l'autodérision qui caractérise, je pense, son œuvre tout au long de ces quatre décennies de production. Généalogie d'un crime, c'est un film assez particulier et vous voyez comment j'essaie de parler du film tout en tournant autour. C'est assez difficile de parler du projet cinématographique de Raoul Ruiz sans pour autant passer son temps à être dans une sorte de discours circulaire qui essaie de s'arrimer à un point plutôt qu'à un autre. Et c'est particulier du cinéma baroque ou d'un cinéma dont le centre du propos n'est pas nécessairement facile à cibler et au contraire, l'essentiel du propos du cinéma de Ruiz dans plusieurs de ses films, et c'est le cas dans Généalogie d'un crime, est à trouver autour de l'intrigue qui est toujours un peu fuyante, toujours un peu opaque et difficile à résumer évidemment. Donc, pour ce qui est de généalogie d'un crime, il y a plusieurs... c'est à voir avec l'érudition, certainement, de Raoul Ruiz, que de lancer un défi aux journalistes, aux commentateurs, pour parler de son film sans se perdre en conjecture. Évidemment, il y a tout un puisier presque de références culturelles qui est à l'œuvre. Dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a à la fois les poèmes de Stéphane Mallarmé qui sont convoqués. C'est une séquence, je peux peut-être préciser un peu, qui se déroule sur l'île Saint-Louis en compagnie de psychanalystes et d'un garçon de café. Deux psychanalystes se rencontrent, soit Catherine Deneuve et Piccoli, qui font affaire à un garçon de café particulièrement arrogant, qui est rien d'autre que finalement ce genre ce type de garçon de café que l'on peut retrouver très facilement à Paris. Mais là, parodie à l'extrême, dans son arrogance, dans sa capacité à vouloir lancer des défis aux clients qu'il croise tout au long de la journée de travail qu'il a. Donc, évidemment, c'est une scène caractéristique si on va dans un café, en particulier un café parisien, que de se retrouver face à un garçon de café qui, au lieu d'être avenant, va plutôt essayer d'être dans une joute avec vous, de telle sorte que, finalement, si vous voulez avoir un peu de complicité avec lui et bien terminer votre passage à ce café, avoir une petite escale au café qui soit moindrement agréable, il faut avoir du répondant, il faut avoir un peu de volonté pour essayer de casser l'espèce de relation de pouvoir ou de duel qu'impose le garçon de café. Alors, si on veut, dans la séquence qu'on vient de voir, le garçon de café est particulièrement arrogant, mais se retrouve à la limite de la parodie, dans la mesure où son propos est tellement érudit et tellement en phase, très érudit, donc il récite Mallarmé par cœur face à un psychanalyste joué par Piccoli, dubitatif, et cette manière très érudite de mettre en scène une joute typique entre clients et garçons de café fait en sorte que Ruiz parvient par un tel stratagème dramatique et narratif, à s'attirer la sympathie du spectateur, parce qu'on y retrouve un air connu, une scène que chacun d'entre nous, si on a eu le temps de traîner un peu dans un café sur l'île Saint-Louis ou ailleurs dans Paris, dans le 14e ou peu importe, a vécu. Et cette scène de référence permet à Ruiz de mieux infiltrer ou pervertir le propos en y ajoutant une étoffe ou une épaisseur culturelle et une épaisseur même intellectuelle, disons, qui devient plus ou moins un commentaire sur une situation banale que l'on fait hisser à un niveau poético-fantastique, mais c'est aussi l'occasion de faire part à un large public qu'on le prend pas pour des cons, en quelque sorte, et que l'air connu de la joute entre le client et le garçon de café est surtout une occasion de tenir un propos intellectuel et culturellement étoffé que l'on retrouve rarement dans un cinéma qui embrasse un public aussi large. C'est donc à la fois l'érudition de Raoul Ruiz qui est à mettre en valeur dans ce cas-ci, mais aussi son respect du public, sa confiance en l'intelligence du public, et il faut aussi souligner finalement sa volonté de ne pas prendre les spectateurs pour des cons. On est capable de leur proposer beaucoup plus que ce à quoi ils sont habitués, même s'ils en comprennent qu'une partie de cette joute entre le garçon de café, le psychanalyste, et le psychanalyste et client, il n'en reste pas moins que tout à coup, c'est un autre monde que ce monde connu auquel Ruiz se réfère, auquel on a accès, et c'est un monde qui a une puissance et une épaisseur littéraire assez rare que nous offre Ruiz, et un de ses grands cadeaux et une de ses grandes générosités adressées aux spectateurs. We'll be right back.
De Christine Brouillette à Albert Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En 2 heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca.
À CKRL, l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation seulement au 89.1. Da 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 da. Cultive tes goûts.
Avec Catherine Deneuve pour généalogie, est-ce que forcément tu tiens compte de son statut d'icône, de tous les personnages qu'elle a interprétés? Est-ce qu'il faut en tenir compte pour lui faire faire autre chose? Ou est-ce que tu peux la voir comme une page blanche que tu vas travailler librement?
Ah ben, c'est impossible de ne pas se rendre compte. Hein, avec Marcello Mastroianni non plus, avec... un comédien, dès qu'il y a une espèce de statut, il devient autre chose qu'un comédien. Il devient effectivement, si tu dis un icône, mais bon, on peut dire ça. Et puis, honnêtement, je cherche à l'oublier, ça. Mais je ne vais pas ne pas tenir compte. Alors, je cherche à jouer avec cette image. Ce que je trouve inutile, parce que je ne suis pas doué pour ça, c'est de les contre-emplois. Je suis pas assez costaud pour jouer les contre-emplois parce que je peux me trouver dans des situations un peu absurdes où c'est ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un contre-emploi pour un comédien? C'est qui a presque fait tout. Hein.
Bien sûr, surtout pour cela, il n'y a plus de contre-emploi.
Un contre-emploi, ça sert à rentrer à toujours dans un des cas. C'est le mot page blanche, c'est difficile. Hein. Je sais que les comédiens aiment ça.
Ils aiment croire ça.
Ils aiment ça, mais je préfère, pour dire les choses très simplement, les voir venir d'abord, voir comment ils veulent jouer. Puis je suggère de doser autrement les choses. Et c'est un peu de la tauromachie. C'est aussi un peu de la gâteaumachie, pour utiliser une expression de Lope de Vega. On joue les trois héros, mais parfois il faut jouer les chats.
Je crois que dans généalogie, il y a quelque chose qui est un peu systématisé, comme tu détestes la psychologie, disons, américaine, quoi. Plaqué. En revanche, il y a une idée que tu aimes bien, je crois, c'est le geste psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est le geste psychologique?
L'expression appartient plus ou moins à Michael Chekhov, un neveu du dramaturge, première, je crois bien la première, oui, c'est la première dissidence de Stanislavski. Et c'est un aspect, les gestes psychologiques, c'est les gestes qui dévoilent quelque chose. C'est tout, donc il y a toute une gestion parce qu'il ne faut pas le montrer. Et au moment où il fait l'illustration de ce qui se passe, mais au contraire, ailleurs, il faut les déplacer, les décaler. C'est une technique plutôt expressionniste, plus que Stanislavskien, si on veut. Je suppose que ça a dû choquer, mais comme ça, c'est lié à autre chose, qui est ce qu'on appelle contre la mémoire émotionnelle, ce qu'on appelait l'imagination émotionnelle. Je ne me souviens plus de l'expression exacte. Ça consiste à un cas classique qu'il citait. Quand je rencontre la scène, l'exercice est, je suis en train de dîner, je dois dîner avec quelqu'un, et dans l'après-midi, mon père est mort. Alors je dois dîner, mais il y a les poids du chagrin. Alors comment on donne les poids du chagrin? Donc normalement, il y a deux cas. Soit le père du comédien est mort vraiment, et alors il doit faire appel à ça, ou il n'est pas mort. S'il est mort, c'est peut-être plus compliqué, parce que, en fait, la mort du père, c'est une chose complexe. Il n'y a pas que les chagrins. Il y a les soulagements, il y a même la joie, il y a une quantité, un bagage gigantesque de problèmes pratiques qui vont polluer les sentiments et les rendre difficiles à exprimer. Si le père n'est pas mort, il va mourir un jour. Et alors, l'imagination de cette mort est plus pure, en quelque sorte.
Alors, manifeste pour l'imagination, c'est Raoul Weiss qu'on vient d'entendre, interviewé par Frédéric Bonneau à l'occasion de la sortie sur DVD il y a déjà plusieurs années du film Généalogie d'un crime, dont j'ai fait entendre un extrait sonore il y a peut-être 20 minutes. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez Au 7e ciel, une émission sur le cinéma cette semaine consacrée à Raoul Ruiz, cinéaste franco-chilien décédé hier d'une affection pulmonaire qui faisait suite à un cancer. En fait, Ruiz a réalisé son dernier film, Les Mystères de Lisbonne, qui est un film extraordinaire, pour l'instant inédit au Québec, qui est un peu une sorte de compilation de films sommes en ce qui a trait à ce qu'on a pu appeler l'art ruizien, donc une manière spécifique de faire du cinéma qui n'appartient qu'à ce cinéaste, Raoul Ruiz. Donc Mystère de Lisbonne, un film entièrement en portugais, c'est un grand rêve que Ruiz avait, que de réaliser un film, au moins un film en portugais, d'autant qu'il avait une relation intime, une relation au long cours avec un producteur fameux, peut-être l'un des plus importants des dernières décennies dans le cinéma, tout genre confondu. Il va d'ailleurs produit le prochain film de David Cronenberg qui doit sortir à Toronto. Je crois qu'il sort peut-être à Venise un peu avant, mais en fait qui sort de toute façon dans les prochains festivals qui vont inaugurer la saison automnale du cinéma. Donc Paulo Branco était le producteur attitré de Ruiz pendant très longtemps, et c'était un peu un cadeau offert de Ruiz à Branco que de réaliser un film qui s'inspire d'un des écrivains phares de la littérature portugaise, soit Camilo Castelo Branco, justement, dans Les Mystères de Lisbonne, un film de 4h30, qui a certainement marqué le paysage cinématographique des derniers mois, au sens large, évidemment, parce que si on s'en tient aux médiocrités locales, si je peux me permettre d'être un peu vert dans mon propos ce midi, ce film-là n'a pas été acheté pour l'instant. Évidemment, il dure 4h30 et les conditions de diffusion et les complexes de diffuseurs, qui sont des complexes au sens peut-être plus psychiatrique que physique, c'est-à-dire un complexe de salle, cache parfois un complexe de plus en plus vif entretenu par les diffuseurs envers le cinéma, où on a l'impression que l'espace cédé au cinéma dans ses complexes est de plus en plus limité au profit de je ne sais quoi. C'est donc dire que le cadre dans lequel on montre des films est peut-être plus important que le cadre avec lequel on fait des films. Et Ruiz, évidemment, ne cédait pas spécialement à cette manière de faire. Il a su habilement, dans une période de plus en plus difficile, pour le type de création qu'il faisait. Donc, comment avec la radicalité de son temps, réussir à maintenir une place dans l'espace de diffusion des normatifs du cinéma, ça a été un des défis de Ruiz. Et c'est pour ça que je disais que Généalogie d'un crime, ce film avec Catherine Deneuve, est un moment extravagant dans sa filmographie, où tout à coup, une grande, grande complexité narrative, une sorte de flou narratif délibéré, n'empêche pas, si on veut, la possibilité que le film aille toucher un public assez large. Et c'est cette sorte de situation miraculeuse qui s'est produite à quelques reprises depuis Généalogie, entre autres avec l'adaptation du Temps retrouvé de Proust en 98. Encore là, un défi comme rarement, évidemment. Les cinéastes qui font des films intéressants aujourd'hui n'ont pas nécessairement à se lancer de défis, mais c'est sûr que s'ils veulent être en dialogue avec une certaine manière de faire du cinéma plus grand que nature, tel qu'on l'a vu depuis les débuts, c'est-à-dire depuis les films de Griffith qui essayait de dépeindre avec toute la maladresse et tous les a priori et les préjugés culturels qu'avait ce cinéaste, dépeindre une société, voire une civilisation ou des civilisations. C'est l'ambition délirante de beaucoup de cinéastes. La fin des civilisations, c'est aussi finalement une des thématiques qui sous-tend ce type d'ambition, une sorte de volonté de capter l'essence d'une civilisation lorsqu'elle décline, donc juste avant qu'elle s'écroule. Il y a cette fragilité propre à l'ambition des cinéastes qui consiste souvent à montrer des civilisations en train de s'écrouler ou à feu et à sang. Griffith a fait ça. D'autres cinéastes comme Visconti l'ont fait à leur manière, avec énormément de moyens, énormément de style. Je pense à un film comme Le Guépard de Visconti, mais pas uniquement. Visconti, le Guépard était un film sur la fin, plutôt le début de l'Italie moderne, donc la fin de l'aristocratie. Et Ruiz, d'une certaine façon, rejoue un peu cette approche viscontienne lorsqu'il va filmer Proust, qui évidemment traite entre autres de la fin du 19e siècle, de la lente décadence de l'aristocratie dans la recherche, et forcément l'expression du passage du temps et d'un rapport singulier au temps que cela implique. Donc évidemment, là on est dans des enjeux qu'on ne peut pas qualifier simplement de mise en scène cinématographique, mais plutôt d'esthétique cinématographique, c'est-à-dire que la mise en scène est au service d'une pensée, de la volonté de représenter un certain nombre de choses qui appartiennent au monde de la pensée, qui appartiennent au monde sensible, mais dans son sens peut-être plus abstrait, plus philosophique. Et c'est une des ambitions de Ruiz que de se hisser à ce niveau que très peu de cinéastes ont réussi à atteindre. Griffith aurait peut-être voulu, mais il n'avait pas les moyens, l'éducation pour le faire. Visconti y parvient, et Ruiz y parvient avec Le Temps retrouvé. Donc c'est dire comment c'est une perte considérable que celle du cinéma de Ruiz, parce que y a très peu d'artistes qui réussissent à exprimer avec les moyens propres à l'industrie cinématographique, qui sont généralement considérables et qui appellent un public tout aussi considérable si on veut faire ses frais, ou tout le moins qui doit autour de lui susciter une sorte de succès, soit en prenant des vedettes ou autre chose. Et entre autres, une des cartes qui avait dans sa manche Ruiz ces dernières années, comme tous les cinéastes qui ont eu pareille ambition que je viens de décrire, c'était de compter sur la complicité de beaucoup d'acteurs exceptionnels qui ont acquis un statut qui dépasse celui du simple acteur au profit de l'icône cinématographique. Piccoli, bon, on pourrait disserter là-dessus, parce que bon, c'est un acteur qui est quand même assez réfléchi et qui a toujours fait des choix qui... si on excepte peut-être les années 70, qui mettait de l'avant davantage le cinéma, qui mettait de l'avant une sensibilité davantage proche du cinéma de l'art et d'essai que d'autre chose. C'est pas le cas par contre de Catherine Deneuve, de Bernard Giraudot, de Marcello Mastroianni jusqu'à un certain point. Bon, Mastroianni est peut-être l'exemple par excellence du génie pur d'acteur de cinéma qui n'a pas beaucoup d'équivalent par Chaplin à mon sens. Donc Ruiz a réussi à s'attirer la complicité des acteurs, et dans l'extrait de l'interview que j'ai fait entendre juste à l'instant, il explique comment ce choix d'acteur vient servir finalement une certaine vision qu'il a du jeu et de la mise en scène, c'est-à-dire cette mise à l'avant de l'imagination, cette espèce de manifeste au service de l'imagination cinématographique que Ruiz a prononcé tout à l'heure dans l'entretien que je l'ai fait entendre, ben il le souligne aussi pour mieux parler de son rapport aux acteurs. Donc, si on veut, sa manière de faire jouer les acteurs et de faire jouer le cinéma à travers eux se distingue tout à fait de l'approche de l'acteur studio, hein, c'est ce qu'il dit. Et en ce sens, se nourrir des icônes du cinéma est tout à fait intéressant pour Ruiz, puisque les icônes cinématographiques sont d'une certaine manière proches de son cinéma baroque, ce que j'expliquais dans la première partie de l'émission. Cette difficulté qu'on a à décrire le cinéma de Ruiz a aussi à voir avec sa volonté de créer une esthétique baroque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un centre ou un nœud dramatique, il y a plusieurs nœuds, plusieurs centres, et même que je dirais que le sujet du cinéma de Ruiz, c'est de montrer à quel point le mouvement de la vie qui tourne autour des petits problèmes personnels est si fort, si intense, qu'il emporte tout, et d'une certaine façon, le récit ne peut que s'y plier. Donc, la réalité sensible qui entoure la vie de tout un chacun, et les consciences qui tournent autour d'un espace qu'on peut filmer, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête de tout un chacun lorsque, par exemple, on fait une séquence dans un café, nous empêche d'avoir une trame narrative qui soit pure, qui soit claire. Au contraire, si on veut être fidèle et juste face à la complexité du monde, on ne peut qu'être baroque. Et de cette façon, on peut dire que les icônes que sont des acteurs comme Catherine Deneuve, John Malkovich aussi, qui a souvent joué avec Ruiz, sont des sortes de puisiers pour nourrir cette imagination ruizienne, au sens où il ne s'agit pas pour ces acteurs d'aller vers le vrai, mais au contraire, de jouer vrai ou d'aller dans le sens de ce qu'on appelle l'actor studio, de ce qu'on appelle la technique de l'actor studio. Au contraire, plus on va jouer faux, plus on va jouer sur l'imagination, image qu'incarnent des acteurs que l'on peut qualifier de stars ou d'icônes, plus on va être dans le monde cinématographique, dans le monde parallèle propre au cinéma, qui est un monde constitué de toutes pièces par l'imagination de ses artisans, de ses acteurs, aussi bien que de ses réalisateurs. Pénètre dans la mer.
avril, comme celle de l'affiche dans les abris des bus. J'en la simple chaîne, il imprime dans ma joue son écorce rugueuse, joie éternelle.
Si le père du comédien est mort, il faut mieux qu'il pense qu'il est vivant et qu'un jour il va mourir. Alors, il faut privilégier plutôt les faits imaginaires, et l'imaginaire est un peu parallèle au fait réel qui nous provoque l'émotion que cherchait Stanislavski. Or, c'est pas banal, c'est ce qu'il dit, c'est pas une idée simple. Parce qu'imaginaire, enfin, voyons une chose, voyons un cas concret. Je me promène, je regarde une dame, et comme on dit, les contacts se produisent.
Visuel.
On s'imagine des choses, et puis elle prend le métro, et je prends un taxi. Et je ne les verrai plus jamais. Alors c'est triste, parce qu'il ne les verrait plus jamais, quelque chose aurait pu arriver. Mais en même temps, c'est joyeux, parce que si on a suffisamment d'imagination, on peut imaginer aussi les premiers rapports, les premiers problèmes économiques, les premières disputes, les divorces, l'avocat. Alors on a deux séquences possibles qui ont à voir avec l'imaginaire.
On vient d'entendre une dernière fois Raoul Ruiz, interviewé par Frédéric Bonneau. Ça se retrouve sur la première édition du DVD Généalogie d'un crime. Donc je ne crois pas qu'on la retrouve sur la copie nord-américaine. Par ailleurs, si vous êtes un collectionneur, vous en retrouverez peut-être une copie quelque part que vous pouvez vous faire venir. Elle est accessible à tous. Au lecteur de toutes ondes, donc Raoul Ruiz, cinéaste qui a disparu hier, qui fait ici éloge de l'imagination et l'espace peut-être aussi. Salut. Mélancolique qu'amène en fait cette mise en valeur extrême de l'imagination. Dans les commentaires qu'on vient d'entendre de Ruiz, où il fait sa définition de l'acteur dans son cinéma, on a l'impression qu'il défend d'une certaine façon leur vie parallèle créée de toutes pièces par l'imaginaire cinématographique au déprimant de la vie courante. Et il y a là une forme de mélancolie avec laquelle on reste en plan, puisque l'univers ruizien est tellement original, tellement singulier, que d'une certaine façon, pour ceux qui le connaissent ou qui vont le connaître, il ne peut que advenir et faire partie de nos vies, d'une certaine manière. Donc c'est la pensée de l'univers de Ruiz qui est tellement vivante encore aujourd'hui qu'on ne peut que saluer sa force créatrice. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'Au Septième Ciel. Merci d'avoir été là.